De vive voix. De vive voix, spécial JO, Laurence Garcia.
Bonjour et bienvenue à vous dans De Vive Voix en mode culture et sport. Vous le savez, durant les JO, nous conjuguons le muscle et la plume, la culture physique et la culture tout court. Pour ce 9e épisode déjà, notre invitée, c'est la comédienne Élodie Menant. Dans sa pièce « Je ne cours pas, je vole », elle met en scène des athlètes réels ou imaginaires qui vont jusqu'au bout de leurs rêves comme elle. Avec Élodie Menant, on va parler de théâtre sportif et de l'esprit du « tout est possible ». De Vive Voix, spécial JO, c'est parti. Bonjour Élodie Menant.
Bonjour.
Comédienne, chanteuse, metteur en scène, autrice. Bon, bah, comme beaucoup d'artistes comédiennes, on pourrait vous imaginer en tant qu'enfant de la balle, hein, fille du théâtre ou du cinéma. Mais je crois savoir que vous, vous êtes plutôt une enfant de l'école du sport, ou plutôt des valeurs du sport. Vous avez été élevée comment à la maison, racontez-nous.
J'ai été élevée entourée de sport avec mon père qui était... commentateur sportif à cette époque et qui nous donnait toujours les valeurs du sport, l'envie de pouvoir imaginer se surpasser, de pouvoir toujours viser plus haut, de se dire que tout est faisable, tout est possible et qu'il faut jamais se limiter et que même quand c'est dur, même quand il y a un effort, et bien la récompense derrière, elle est encore plus forte si justement on réussit.
Votre papa, il faut rappeler, il a été effectivement longtemps commentateur sportif, c'est Marc Menant. Hein. C'est et ça. Puis il y a votre maman aussi qui était dans la partie. Hein.
Ouais, et il y a maman qui, elle, a travaillé pendant plus de 20 ans pour la marque Reebok en tant que directrice des relations extérieures. Et donc, elle gérait notamment les athlètes sponsorisés Reebok.
Oui.
Et il y avait parmi eux Marie-Josée Pérec, donc pu rencontrer plusieurs fois et que j'ai pu suivre lors de ses différents jeux. Et également des Venus Williams, Arantxa Sanchez, basketteurs comme Shaquille O'Neal. Enfin, donc j'avais toujours droit à des anecdotes, à des rencontres, à pouvoir aller assister à Roland-Garros, à des matchs de tennis, à pouvoir aller voir courir Marie-Jo à Charletti.
Vos héroïnes gamines, c'était plus les sportifs que les comédiennes alors?
Oui, et j'ai toujours plus aimé, même quand on pouvait regarder certains dessins animés. Enfin, mon père ne le voulait pas, mais ma maman, elle acceptait de temps en temps. Mais j'étais davantage sur des dessins animés comme Olive et Tom que des dessins animés très girly.
Je vois.
J'ai jamais joué à la poupée. J'ai toujours préféré. Mon père nous avait offert un circuit de voiture.
Ah d'accord.
Les codes étaient un peu cassés, mais c'était drôle.
Alors vous en parlez du père Élodie Menant à la maison, donc chez vous, à la télé, durant l'été, bah, forcément pour tous les Français, il y a le Tour de France et il y avait cette voix-là qui s'échappait du poste.
Le virage à gauche, une très courte ligne droite, un deuxième virage à gauche. Et la dernière ligne droite maintenant pour Bernard Hinault qui va remporter son premier Tour de France grâce à sa performance réalisée aujourd'hui, distançant et comment Joep Zoetemelk, le dernier virage, la ligne droite avec le dernier sprint maintenant pour Bernard Hinault qui relance à nouveau son grand braquet de 54-12, 10 mètres à chaque coup de pédale. Hinault maintenant plus que 25 mètres à peu près, il remporte l'étape sans aucun problème. Il met moins d'une minute. Bernard Hinault donc remporte l'étape et le Tour de France. Je pense qu'il a dû forcer énormément et souffrir beaucoup pour distancer de cette façon Joep Zoetemelk.
Et ben voilà comment Bernard Hinault remporte le Tour de France. Là, on est en 1978. Alors, il dit, mais non, je crois que vous n'étiez pas né en 78.
Non, je n'étais pas né.
Alors, on sent que votre père, hein, comme tous les commentateurs sportifs, donne de sa personne. Hein.
Oui.
Alors, comment aujourd'hui, avec du recul, tiens, la comédienne de théâtre, la comédienne écoute le phrasé du commentateur sportif. En quoi c'est une forme d'art aussi pour vous?
Moi, ce qui à chaque fois me plaît énormément, c'est qu'il y a une forme de transcendance. Le commentateur est tellement pris par ce qu'il est en train de voir. C'est plein d'émotions, c'est plein de fougue. C'est rempli d'un enthousiasme qui est extrêmement communicatif et qui est passionné et passionnel et qui donne un élan de vie. Et je crois que c'est ça que j'aime le plus quand j'entends les commentateurs. Parfois, ça nous transporte, ils nous embarquent avec eux. Et ça, c'est ce que la comédienne aime aussi, parce que quand on est sur scène et qu'on raconte une histoire, on a l'intime envie que le spectateur soit autant embarqué et puisse vivre des émotions diverses, et se sentir concerné par l'histoire, avoir de l'empathie pour les personnages. Et donc, quand à la fin, les applaudissements sont extrêmement chaleureux, voire quand on a des standing ovations, bah, subitement, on se dit « Ah, j'ai réussi à... »
À transmettre.
Créer ce que j'avais envie de transmettre.
Ouais. Et en même temps, le commentateur sportif, bah là, on est en direct, hein, on est sans filet, il n'y a pas de prompteur. Forcément, quand on joue sur scène, bon, notamment au théâtre, l'improvisation a peu de place. Hein.
Oui, il y a peu de place, mais elle peut arriver et on est quand même en direct, nous aussi.
Bien sûr.
Avec chaque soir des configurations différentes, un public qui est différent. Nous, on peut avoir un problème physique, on peut tomber malade. On peut avoir une mauvaise nouvelle dans la journée, donc l'impact mental, moral peut être important et avoir une conséquence sur la représentation. Mais justement, notre objectif, c'est de toujours parvenir à le cacher. Mais néanmoins, nous, dans notre ressenti, un peu comme là, quand j'entends mon père dire « Ah, j'imagine que pour Bernard Hinault, ça a été une course très dure. On voit que mathématiquement, il a réussi la course, il a fait un superbe temps, mais ça a dû être dur pour lui. Ben, » nous, parfois, on a des représentations où les gens viennent nous dire « Waouh, comme vous étiez formidable ce soir. » Et intérieurement, ça a été une difficulté extrême. On s'est battu contre soi-même. On se disait « Allez, tiens bon, allez, c'est bientôt fini. » C'est terrible quand ça nous arrive, parce qu'en plus, c'est tout ce qu'on aime. Mais de temps en temps... ça peut arriver de lutter contre soi-même, soit parce qu'on a mal quelque part, soit parce qu'on a un petit moral. Donc ça, ce sont les coulisses et ce qu'on ne voit pas, mais c'est avec quoi on doit aussi s'arranger.
C'est la comédienne, metteur en scène et autrice Élodie Menant, l'invitée de Vive Voix sur RFI. Quand le sport et le théâtre se rencontrent, eh ben, ça donne ça.
Est-ce qu'on a un destin ?
Est-ce qu'on le choisit ?
Discipliné, j'étais prêt à tout.
Doué !
Entêté !
Acharné !
Avant même de l'être,
j'étais champion olympique.
Chers téléspectateurs, ce que je vous propose, c'est de plonger avec moi dans le passé méconnu des sportifs.
J'y arriverai pas !
Julie, c'est dans la tête ! Pas de grande victoire sans grands efforts.
Se battre chaque jour, foncer, s'entraîner, même quand le corps est fatigué,
même quand l'esprit craque, foncer,
avoir confiance, l'athlète de haut niveau,
il fonce.
Arrête de tout imiter. Tu te rends compte que t'as failli convaincre ta fille d'arrêter la compétition alors que c'est son rêve?
Dernière séance de qualif, ça va?
Très bien.
Faut tout donner.
Je suis en forme. Alex, aujourd'hui, c'est toi qui cours, tu entends? Tu cours pour de vrai, Alex. Je t'ai jamais lâché. Alors tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas, d'accord? Aujourd'hui, on ne court pas, Alex. On vole!
Je ne cours pas, je vole. C'est un extrait de la bande-annonce de la pièce de théâtre que vous avez écrite, Élodie Menant. Alors, on n'a pas les images forcément en radio, mais il y a une énergie hallucinante sur scène avec une troupe de 6 comédiens qui interprètent une vingtaine de personnages et d'athlètes de haut niveau. Comment les comédiens ont travaillé? Ils ont travaillé avec des coachs sportifs ou pas? Parce que là, c'est une vraie performance à la fois théâtrale et sportive. Hein.
Il y avait eu quelques séances, en effet, avec un coach sportif. Et puis ensuite... on travaillait avec un chorégraphe et à force, on s'habitue et on travaille et on refait. Et le corps finit par appréhender chaque mouvement qui lui sera proposé. Et avant de jouer, il y a toujours un échauffement de chacun.
Oui.
Alors, en fonction des partitions, il y en a qui s'échauffent plus que d'autres. Celle qui fait la gymnaste, elles ont été plusieurs à jouer le rôle de la gymnaste, qui demande énormément de souplesse, des équilibres, des choses comme ça. Donc, elle s'échauffait à chaque fois au moins une heure avant. Ce sont des comédiennes qui sont au départ danseuses classiques. Voilà, chacun avait son parcours et sa manière de s'y préparer.
Alors, sur scène, on croise des champions, hein, en tout cas symbolisés, comme notamment la nageuse française Laure Manaudou, il y a le sprinteur jamaïcain Usain Bolt, il y a le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ces champions sportifs qui ont marqué forcément l'imaginaire collectif?
Moi, je les trouve extrêmement inspirants et en ayant eu le goût du sport en le pratiquant et en étant aussi dans les coulisses grâce à ma maman et à pouvoir rencontrer certains sportifs, j'avais la sensation qu'on ne nous donnait pas toujours toutes les clés de ce qu'était la vie du sportif. Et donc, j'avais envie de pouvoir prendre ma petite loupe, mon microscope et de rentrer dans cet univers. Et pour marquer davantage le spectateur, je me disais, certes, je vais parler de Julie Dinard, qui est un personnage que j'invente. Alors, je me suis inspirée un petit peu, et je l'avais rencontrée également, de Élodie Guégan, qui était une athlète qui courait le 800 mètres et qui s'est blessée pendant sa compétition, exactement comme l'héroïne va se blesser pendant la pièce.
Parce que l'idée, c'est quoi? C'est quelque part, à travers cette athlète-là fictive, et par rapport au spectateur, c'est, on la voit lutter, elle chute, elle doute, elle culpabilise, en plus, gamine, elle avait de l'asthme, bref, elle n'était pas totalement prédestinée pour. Y a pas de morale de l'histoire, mais c'est se dire que quand on veut, on peut, qu'il n'y a pas de fatalisme à travers les lignes.
C'est de pouvoir se dire, s'il y a une force en vous, une envie, une passion, quelque chose qui vous donne envie de vous mouvoir et d'atteindre un objectif ou de pouvoir au moins essayer, alors il faut y aller. Même si on vous dit non, c'est pas la bonne direction, non, ce sport n'est pas fait pour toi. Le nombre de fois où des parents vont donner une direction dans un choix de profession alors que la personne en tant que telle n'a pas du tout envie d'aller vers ce métier. Et donc j'ai envie de dire surtout, à partir du moment où il y a ça, cette flamme en vous, alors permettez-lui de grandir, de s'affirmer, peut-être. Avec de la chance, vous y arriverez, et avec du travail. Et puis même si on n'atteint pas tout à fait l'objectif, c'est pas bien grave non plus. L'essentiel, c'est au moins d'y être allé plutôt que d'avoir le regret.
C'est
ce que j'aime bien dans ces sportifs de haut niveau que j'ai choisis, donc qui sont un peu les idoles de Julie Dinard et qui arrivent régulièrement dans le spectacle pour raconter leur vie, c'est que justement, on découvre qu'un Usain Bolt n'aurait jamais dû courir sur 100 mètres. Et pourtant, il a été champion du monde et recordman du monde sur 200 mètres. Mais parce qu'il a un corps qui est beaucoup trop grand, tout le monde disait, mais tu auras à peine le temps de sortir de starting block et les autres, ils seront déjà sur la ligne d'arrivée. Donc non, ne fais pas du 100 mètres, fais du 400. Mais lui, il avait mal parce qu'il a une scoliose, il a une jambe plus courte que l'autre. C'était pas du tout une distance qui lui convenait. Mais pour autant, il a commencé à s'entraîner sur du 400. Et c'est parce qu'il a fait un pari avec son entraîneur en lui disant, écoute, si là, je cours cette course de 100 mètres et que je suis en dessous des 10,03, tu me laisses courir sur 100 mètres.
Ouais,
et le coach
ça.
A dit, ok, allez, vas-y, cours. Il n'y croyait pas du tout. Et Bolt a réussi à courir en dessous des 10,03.
Élodie Monant, il y a une autre athlète qui vous a inspiré, je le sais. C'est Floria Gay, l'athlète française spécialiste du 400 mètres. Là, on est le 17 août 2014, lors de la course en relais 4x400 mètres des championnats d'Europe de Zurich. Tout semble vraiment perdu pour elle, jusqu'à cette seconde-là.
Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer.
Alors peut-être.
La Britannique est en train de craquer, Patrick.
Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même.
La Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer.
Elle revient, elle va réussir, elle va passer. Allez, elle va passer. Allez, encore, 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 encore,
encore, encore. C'est monstrueux.
C'est monstrueux.
Quelle ligne droite.
Magnifique.
Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres. Quel 400 mètres.
Elles sont championnes d'Europe.
C'est énorme.
J'ai jamais vu ça.
Non. Hey, Patrick.
Je n'ai jamais vu ça.
C'est extraordinaire.
On parlait tout à l'heure de l'art des commentateurs sportifs. À remonter. Incroyable. Je crois savoir que c'est une performance, une vidéo qui vous a inspiré aussi.
Ah oui, vraiment, les auditeurs ont l'occasion de regarder cette vidéo, elle est sensationnelle. Elle est exceptionnelle parce qu'en effet, on la voit tellement loin, la pauvre. Elle est dans le virage. Elle est en quatrième position et ça semble impossible qu'elle remonte. Et subitement, on se dit non, c'est pas possible, elle le fait. Et c'est vraiment à l'image de ce qu'on entend des commentateurs.
Oui.
Non mais, ah bon, non, mais si, mais non, mais elle le fait. Et ça paraît tellement fou parce que vraiment personne ne pouvait l'imaginer.
Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? On peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Vous vous êtes posé cette question-là à Floria Gay en se disant, tout est perdu, mais j'y vais, quoi.
Je pense que à ce moment-là, à mon avis, il y a quand même ils sont dans leur monde. Ouais. Et elle, elle est là pour courir et pour faire sa course. Et elle sent que ses jambes, elles tiennent. Donc c'est celui qui aura la meilleure endurance et qui va réussir à être le plus solide face à toutes les douleurs qu'il va ressentir dans son corps.
Ouais,
et je pense que là, cette Floria, ce jour-là, elle était sur un bon rythme et elle a réussi à tenir là où les autres ont craqué avant elle.
Voilà.
Et c'est pour ça qu'elle remonte, elle remonte. Parce que si ça se trouve, les autres ont commencé un petit peu à décélérer. Mais elle, elle a tenu.
Ne jamais renoncer.
De toute façon, c'est la ligne d'arrivée.
Ouais.
Et quand on se sent bien dans son corps, c'est à l'image du titre « Je ne cours pas, je vole », il y a cette sensation de « je vole ». Et voilà. J'en avais parlé à Marie-Jo et elle m'avait dit
Marie-Jo Pérec.
Ah oui, ce titre, il me parle tellement.
Je cours pas, je vole. Voilà. Et surtout, ne jamais renoncer. On l'a bien compris avec Élodie Menant sur RFI. On parle de sport et de théâtre, du muscle et de la plume dans De Vive Voix spécial JO avec Élodie Menant, comédienne, chanteuse et autrice. Comment vous expliquez, Élodie, que voilà, dans notre culture bien française, hein, dans notre imaginaire collectif, bah, il y a encore un vieux stéréotype qui consiste un petit peu à séparer, à opposer l'intellectuel, le culturel et le sportif. Comment vous l'expliquez, vous ?
J'arrive pas bien à l'expliquer. Un manque d'ouverture d'esprit. Notamment ce spectacle, moi, quand j'ai commencé à l'écrire et à vouloir le créer.
Je ne crois pas, je vole. Parce que le théâtre, c'est quand même assez élitiste et élitaire, quand même. Hein. C'est un milieu qui peut sembler fermé, comme ça, vu de loin.
Tout à fait.
Il a fallu convaincre.
Les gens m'avaient dit,
oui.
Bien sûr, les directeurs de théâtre me disaient, mais tu vas te casser la figure, ça ne va pas marcher. Le public du théâtre n'est pas le public du sport. Donc là, tu veux rassembler les deux. Ceux qui aiment le théâtre ne vont pas vouloir voir une pièce sur le sport. Et ceux qui aiment le sport ne vont pas au théâtre.
Ah, c'est
donc
dingue.
Ça ne marchera pas.
Il a fallu convaincre ?
Oui, il a fallu convaincre. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui est Thibaut Dinière, qui m'a suivi du début à la fin parce que lui-même est passionné par le sport. Et même si on a connu de grosses tempêtes pour créer ce spectacle, on a mis 6 ans à le créer.
Ah, oui.
C'est vraiment à l'image du spectacle où il ne faut jamais lâcher.
Bah, ne pas lâcher, c'est un petit peu ce que vous disiez par rapport aux autres athlètes là, qu'on évoque depuis tout à l'heure. Dans votre tête, vous dites, bon, bah, tiens, je me mets dans la tête d'une athlète qui ne lâche pas, même pour monter ce spectacle, ce théâtre-là aussi.
Bah, oui, c'était un peu la morale de cette histoire.
Oui.
Il y avait Johanna Boyer, donc la metteuse en scène, qui avait accepté de récupérer le spectacle, alors qu'il y avait eu 2 autres metteurs en scène avant, mais pour différentes raisons qui n'ont pas pu aller au bout.
Mmh.
Après, il y avait des comédiens qui changeaient. Enfin, je me disais, je vais jamais réussir à aller au bout. Et puis ensuite, il y a le Covid. Et un jour, j'ai une amie au téléphone et qui me dit, Hello, faut peut-être que tu entendes que faut que tu arrêtes. Parce que si ça me fait autant de temps que tu essayes et qu'à chaque fois, ça bloque, faut peut-être pas être entêté et entendre qu'il faut arrêter. J'ai raccroché et je me suis dit, bah, non, je ne vais surtout pas arrêter parce que je peux encore avancer. Et je sais que je ne suis pas allée au bout de ce que je suis capable de faire et qu'il y a encore une piste que je n'ai pas essayée et je ne m'arrêterai que le jour où vraiment je verrai que je ne pourrai plus faire un pas devant l'autre. Finalement, ça a marché.
Quelque part, c'est en écho, Élodie Menant, à ce qu'on disait tout à l'heure. Cette pièce, elle soulève aussi le fait de s'accrocher à ses rêves d'enfant aussi.
Oui, c'est ça, c'est de se dire que même quand on est dans les pires vagues, j'imagine que c'est la même chose pour un navigateur. Il y a des grosses phases de découragement, on est submergé par des vagues qui s'écroulent, qui nous écrasent, qui viennent nous mettre à terre.
Mmh.
Je contrôle plus rien, je maîtrise plus rien. Et c'est d'avoir confiance que dans n'importe quelle étape de notre vie, eh ben, tout est en mouvement et donc tout change et tout bouge et le calme revient et il y a toujours une lumière qui peut revenir. Et ce qui est fou avec ce projet, c'est que le moment où, avec Thibaut Dinière, on s'est dit, est-ce qu'on lance la création ? On ne savait même pas si le Festival d'Avignon allait avoir lieu parce qu'on était en 2021, donc post-Covid.
Mmh.
À un moment, tout s'est illuminé. Le Festival d'Avignon a eu lieu.
Ah, comme quoi, il faut toujours aller jusqu'au bout.
On est allé à l'Avant-Scène Théâtre. On est allé jouer au rond-point.
Mmh.
Tout s'est aligné.
Tout
J'ai eu le prix SAC des hauteurs. Tout.
Voilà, comme quoi, il faut s'accrocher. Vous disiez, on m'a souvent répété que le public du théâtre, ce n'est pas le public du sport. En même temps, comment vous expliquez là encore aussi qu'il y a peu de femmes autrices qui écrivent sur le sport, qui est pourtant une matière romanesque ? Est-ce que... Pourquoi ? Ça reste encore un code genré ? On est encore dans...
Oui, j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore des histoires de genre. sont des questions que je me pose souvent quand on regarde les filières scientifiques, les filières littéraires. Il y a toujours plus de filles et je n'arrive pas à saisir qu'est-ce qui fait que on retrouve ça malgré le temps qui passe. Moi, j'avais fait maths-p, donc complètement scientifique. Oui. Je me souviens que dans ma classe, en prépa, on était 45, il n'y avait que 8 filles. Je me disais, mais pourquoi il y a si peu de filles? Et dans le sport, à l'école, c'est pour ça que je voulais être un garçon, parce que moi, j'aimais le sport, et que les garçons, c'était ceux qui allaient jouer au foot, et les filles, c'était toujours celles qui n'avaient pas du tout envie d'aller faire de sport et qui restaient sur le côté. Donc, les garçons se disaient, les filles sont nulles, donc ils ne voulaient pas nous faire jouer, même celles qui avaient envie de jouer.
Et nous sommes toujours en compagnie de la comédienne Élodie Menant dans De Vive Voix sur RFI. Alors Élodie Menant, vous qui êtes aussi chanteuse, hein, vous êtes multicasquette, est-ce que vous avez déjà entendu cet air-là ?
Demain c'est Paris, ouais, demain c'est Paris, la 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 la. Demain c'est Paris et les étoiles aussi. Tu voudrais briller comme l'or et vivre un moment unique. Cours, cours comme Marie-Josée Pérec. Marie-Josée Pérec joue là comme Périne Lafond. Périne Lafond, sois précis comme Martin Fourcade. Martin Fourcade, sois fort comme Teddy Riner. Teddy Riner, rêve grand comme Alain Bernard. Alain Bernard, la rage d'Alexis en Guingamp. Alexis en Guingamp, puissant comme Karabatic. Karabatic, rapide comme Manodou. Manodou, vif comme Tony Estanguet. Tony Estanguet, la grinta de Céline Dumais.
Demain c'est Paris, enfin c'est déjà aujourd'hui, c'est un hymne écrit par Florent Dasque, le chanteur du groupe Boulevard Désert et le chanteur Eyal, avec les voix d'une cinquantaine de sportifs français, dont Marie-Josée Pérec, on en a parlé avec vous tout à l'heure, Élodie Menant, hein, amie de la famille. Marie-Josée Pérec raconte que le déclic de sa vocation pour elle, c'est un jour quand sa grand-mère lui a fait écouter une émission de radio. On était en 74 et cette émission diffusait le combat de Mohamed Ali contre George Foreman, hein. C'était le choc des titans, elle avait 6 ans. Et elle raconte que elle a vu sa grand-mère hurler, elle s'est mise à danser, elle lui a répété « Tu vois, tu tombes, tu relèves la tête ». Est-ce que ça résonne chez vous ? Est-ce qu'il y a eu des déclics comme ça pour vous en tant que comédienne de moments forts en disant « Allez, je... » Parce qu'on le disait tout à l'heure, hein, c'est un métier de combat aussi, le métier de comédienne.
Oui, c'est un métier de combat. J'ai pas une image forte comme ça, à part en effet toutes les comparaisons, les métaphores que notamment mon père a pu me raconter. Et oui, lui qui a fait du commentaire sportif avec des boxeurs, il avait toujours des petites références comme ça, des anecdotes qu'il pouvait me raconter. Non, en revanche, moi, ce qui a été un grand moteur, je sais pas si c'est...
Allez-y.
Ça répond bien à la question, mais quand j'ai décidé de finalement pas faire de mathématiques et donc de ne pas aller au bout de ce cursus pour devenir ingénieur, je suis partie faire les cours Florent et puis ensuite il fallait travailler et j'avais la hantise de me retrouver un jour dans la rue. Je me disais, il faut surtout pas que je devienne un jour SDF. Et j'avais très très peur. Un moment dans la carrière de mon père, il a eu 3 ans difficiles où il n'avait plus de travail, où il a vraiment eu une traversée du désert. Et ça m'avait beaucoup choquée quand j'étais petite. J'ai vu notre rythme de vie complètement se transformer. Je sais que ça m'avait marquée. Et donc, en choisissant une voie qui me semblait pas évidente, j'avais cette peur-là. Et donc, quand parfois je me disais, oh, il faudrait que je contacte tel directeur de théâtre, mais je ne le connaissais pas et donc je ne me sentais pas légitime pour l'appeler. Je me disais, mais je suis la petite jeune, qu'est-ce que je vais lui dire ? Il va forcément m'envoyer balader. Et je repoussais toujours ce coup de téléphone. Et au bout d'un moment, j'avais toujours une autre voix dans ma tête qui intervenait, qui disait, tu veux faire quoi demain ? Tu veux être dans la rue, c'est ça ? Tu veux devenir SDF ? Alors maintenant, tu vas prendre ton téléphone et tu vas appeler. Et c'est vraiment cette angoisse de me retrouver démunie de tout qui a fait que j'ai osé prendre mon téléphone, que j'ai osé créer ma compagnie, que j'ai osé mettre toutes mes économies pour pouvoir produire mon premier spectacle et que je me suis battue comme j'ai pu pour y arriver.
Écoutez sa petite voix. Ouais. Pour terminer, Élodie, maintenant, à chaque fois, un petit quiz de nos invités pour savoir quel type de sportive vous êtes. Parce que vous courez hein, quand même. Hein. Vous courez pour de vrai.
Oui, oui.
Est-ce que vous êtes plutôt marathonienne ou sprinteuse ?
Sprinteuse.
Ça m'étonne pas. Est-ce que c'est l'essentiel, c'est la médaille d'or, c'est le Molière de la meilleure actrice ou l'essentiel, c'est de participer ?
Non, de participer.
Ah, ça, ça m'étonne. Ouais. D'accord. Votre rôle préféré au sein d'une équipe ou d'une troupe de théâtre, par exemple, comme vous, c'est quoi ? Leader, compétitrice, coéquipière, premier rôle ?
Coéquipière.
C'est quoi la beauté d'un geste pour vous, Élodie Menant ?
La beauté d'un geste, c'est celui qui nous surprend. Bah parce qu'on ne l'a jamais vu. Parce qu'il est nouveau, quoi. Et qu'il est précis, qu'il est juste, qu'il est fort, qu'il est... Voilà.
Il nous surprend.
On dit, waouh !
Waouh !
Ça nous émerveille.
La plus belle valeur du sport pour vous, à vos yeux ?
Il y en a beaucoup, mais la plus belle valeur du sport, il y a cette notion d'entraide. Parce que même quand on est dans un sport individuel, il y a toute une équipe derrière. Et ce que je trouve très beau, c'est ça, c'est toute cette équipe, tout ce qui noue les uns et les autres et qui fait qu'on devient un bloc à plusieurs.
Comme dans une troupe de théâtre, en fait.
Ouais, exactement.
Un grand, grand, grand merci, Élodie Menant, d'avoir joué le jeu, de vous raconter à travers le sport. C'est un plaisir de vous avoir.
Bah, merci à vous.
À bientôt.
Aussi.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Surtout les doutes qui s'ajoutent. Ce n'était pas le bon moment pour rencontrer ta peau, se jeter à l'eau et pouvoir garder l'élan. Mais aujourd'hui j'ai 20 ans, je suis presque devenu grand. Il était temps de prendre le large, j'étais à bout de souffle. Maintenant je nage sur mes presqu'îles.
Malik Djoudi avec Vivant sur RFI. De vive voix, c'est fini. Merci ma belle équipe olympique. Sophie Jeannin à la réalisation, Mehdi Jaziri à la rédaction. On se retrouve demain à la même heure pour notre dernier épisode avec le réalisateur François Luciani. On parlera de tennis spectacle et de rêve d'ascension sociale dans le cinéma comme dans le sport. Belle journée à vous et à demain dans De vive voix.